Cours de philosophie de la nature par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jeaudard, le 13 septembre 1995.
Le Père Marie-Dominique Gouthière, puisqu'il doit terminer à tout prix sa thèse pour le 1er novembre. Autrement, je serais obligé de lui dire de partir. Et je crois qu'il vaut mieux qu'il reste ici, partir autre part pour terminer ça. Après, il pourrait être mangé par vous. Alors, il sera dans son travail, donc ce sera encore mieux. Parce que c'est quand même important de terminer une thèse. Il passera en Sorbonne, Paris 1, entre la Toussaint et Noël, sans doute. Si les professeurs du jury le temps de lire sa thèse entre deux. Mais je voudrais beaucoup que ce soit avant Noël pour qu'il soit complètement libéré. Une fois qu'on a déposé la thèse, on est libéré. Mais quand même, on n'est plus libéré quand tout est terminé. Après la soutenance, alors, faites un effort. Vous avez quand même des parrains. Vous avez ceux qui s'occupent un peu de vous, le frère Gabriel. Alors vous pouvez très bien leur demander, il faut qu'eux soient très attentifs, spécialement au début, donc pendant ce mois. Parce qu'au début, on a besoin d'avoir quelqu'un qui vous aide. Il faut que tous, vous ayez quelqu'un qui vous aide dans votre travail. N'hésitez pas, même s'il le faut, pendant ce mois, s'il faut que je vois séparément la première année pour les aider, je n'hésiterai pas de le faire. Parce que c'est important d'être tout de suite, dès le point de départ, orienté et d'avoir quelque chose qu'on travaille personnellement, qu'on lit. On ne vous demande pas un petit travail au début, mais on voit une lecture. Et une lecture qui doit se faire en analysant. Vous apprendre à lire les choses philosophiques en analysant et en les résumant. Et si vous avez des idées géniales, ça peut arriver, ça d'esprit peut vous aider. Vous développez ces idées et vous les faites dire à vos parrains. Et si c'est génial, le parrain me le montre. Et si c'est très très génial, on l'affichera. Dans une baignoire. Et quand ils sortent de la baignoire, ils font des dégâts. là-bas. C'était un jeune couple américain. Il habitait là-bas, petite voiture. Il voit un hippopotame au milieu de la route. Ils sont rois là-bas. Ils ne sont surtout pas les déranger. C'est pire que les gendarmes. Donc, ils sont rois. Alors, ils se mettent à... pour qu'ils bougent quand même, pour qu'ils passent. Corné. L'hippopotame se tourne royalement, lève la patte, puis la plonge dans le capot de l'auto. Très bien. Puis en la relevant, ils ne peuvent plus. Donc il lève l'auto. Alors, vous voyez l'angoisse de ce jeune couple. J'ai jamais pensé ça. Sentant sa patte comme s'il commence à rugir, hein, puis à s'agiter. Et en avançant, là, l'auto suit. Et il y avait un petit lac tout près d'où il sortait. Il commençait à avoir peur. Heureusement, la providence était là. À la dernière minute, quand il était tout près, la patte a pu se libérer de l'auto. Alors ils ont respiré. Et ils ont compris. On dit à tout le monde, on ne savait pas qu'il y avait ça. C'est comme les éléphants, quand on rit sur un éléphant, ils sont méchants. C'est curieux, les animaux comprennent le rire des hommes, ils sont méchants. Alors, il voulait prendre la photographie d'un éléphant s'approchant, tout proche. Je comprends, tu vois, son envie quand on les voit. Ces grosses bêtes, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Il s'est approché de trop. Et alors l'éléphant, lui, alors il a enroulé l'appareil de photographie. Mais avec l'appareil de photographie, il y avait l'homme, n'est-ce pas? Celui qui prenait la photographie, il l'a enroulé, puis il l'a rejeté en l'air. Il ne l'a pas tué, mais c'était quand même une bonne secousse. Tout ça nous introduit dans la philosophie de la nature. Pas la philosophie du vivant, mais la philosophie de la nature. C'est vrai, il y a une quantité de matière dans un éléphant, dans un hippopotame, qui est remarquable, ces animaux qui sont proches. La philosophie de la matière, la philosophie de la nature. Je m'exprime les deux titres. C'est curieux. Alors, il faut essayer de comprendre. D'abord, topic historique. Il y aurait une très belle topic historique à faire. Difficile. C'est sûrement un des problèmes très difficiles pour nous. Je verrai pourquoi. En philosophie grecque, le berceau de notre philosophie, en philosophie grecque, très vite, la philosophie de la nature est apparue. La phusis. Vu que la philosophie commence par philosopher sur la nature, sur le travail, sur l'amour d'amitié, l'éthique, et la politique, la coopération. Et très vite est apparue la philosophie de la nature. Je crois, à partir même de la philosophie du travail, puisque la philosophie de l'art, de l'activité artistique, donc du travail, le travail est un élément de l'activité artistique. Les bons artistes diront toujours qu'il faut avoir du métier. Et le métier, c'est le travail. Ça s'acquiert. Autrement, c'est le dilettantisme. Et c'est plus du tout. On attend l'inspiration. Mais l'inspiration, elle vient en travaillant. Ça, c'est sûr. Il faut travailler. Ça, d'une façon générale, il faut s'habituer à ça. Quand vous avez une inspiration, vous pouvez l'écrire. Mais ordinairement, il faut écrire sur un sujet donné, puis petit à petit, l'inspiration vient. Ça nous aide, l'inspiration, ça nous donne des ailes. Ça nous fait aller plus loin. On ne dépend plus de l'hippopotame. Dès qu'on est inspiré, on est au-dessus. Le travail, un élément de l'activité artistique, de l'activité artisanale, c'est l'artisan qui sait ce que c'est que le travail. Plus beaucoup. Et quand vous rencontrez un véritable artisan, il faut parler avec lui. Parce que c'est une race qui existe encore en Italie, en France, un tout petit peu, et qui tend à disparaître. C'est terrible du reste. L'homme paysan qui a sa ferme, un artisan, un apiculteur qui est l'art d'élever des abeilles, l'art d'élever les chevaux. Tous ces gens-là ont un contact avec la réalité ou du vivant ou de la nature. Et c'est important de comprendre ce que c'est que la matière sur laquelle le charpentier travaille. En grec, oulé veut dire bois, veut dire matière. Donc on voit très bien le lien. La matière, c'est d'abord ce qu'on transforme. La matière, c'est tout ce qu'on transforme. Et vous voyez, pour Marx aussi. Et pour le grec, c'est d'abord ça. Qu'est-ce que c'est que la matière? Oulé. C'est ce qu'on est capable de transformer. Ce qu'on est capable de transformer. Ce qui est transformable. C'est ça la matière. Quelque chose qui ne serait pas transformable ne serait plus matière. Parce que le travail se fait toujours en coopération avec la matière et l'homme qui a une idée en tête. L'idée de la roue. Il a essayé de réaliser ça. Réaliser une roue. Puisque c'est sans doute la première chose qui a été réalisée. C'est du reste qui montre comment on a un désir un peu, quand on travaille, un désir de faire quelque chose qui va demeurer le rond. Non. Il y a des points de départ, de grandes inventions. Le travail manuel, artisanal, c'est la matière et le feu. Quand il s'agit des matières dures, du fer, de l'acier, on a besoin du feu pour les rendre capables d'être transformés. Le feu permet à certaines matières qui sont dures autrement et qui résistent de les faire transformer. Sinon, on voit ça très bien avec le verre. On voit ça très bien avec le plomb. On voit très bien ça avec l'acier. Et le feu est une condition sine qua non pour que certaines matières particulièrement dures deviennent capables d'être transformées. Alors, faites toutes les analogies possibles avec la vie spirituelle. Le grand artiste, c'est l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, pour pouvoir transformer des têtes dures, pas seulement de Bretons, mais aussi d'hommes du Nord, il est né dans une serre, le noviciat, où on chauffe. Et l'art du permettre, c'est de chauffer. Et d'agir quand le métal devient capable d'être transformé par l'Esprit Saint. C'est pas le permettre qui permet, il est à la chaufferie. Pour chauffer l'atmosphère, on crée un climat particulier. On voit très bien, c'est pour ça que c'est si intéressant de regarder la philosophie de l'art. Ça nous aide à comprendre l'Esprit Saint. De façon étonnante. Parce que l'Esprit Saint a sur chacun d'entre nous une intention de vie. Et il nous transforme. Et notre matière à nous, elle n'est pas commode. Parce qu'il y a des nœuds. Et les conséquences du péché originel, ce sont des nœuds. Des nœuds qui nous durcissent. Des nœuds du côté de la concupiscence, du côté de la vanité, du côté de l'orgueil. Il faut arriver à faire que ces nœuds soient dépassés pour que l'Esprit Saint s'en sert. Il y a une matière. La matière, c'est ce qui est capable d'être transformé. Je crois que c'est la meilleure définition, la plus simple, la plus directe de la matière. Alors vous voyez, quelle est la matière pour le Saint-Esprit ? C'est l'homme pécheur qui est né dans le péché. Et vous entrez au noviciat, dans la vie religieuse, avec votre bagage de péché. On ne met pas à la porte. Si on pouvait le faire, ce serait très bien, mais on ne met pas à la porte. Bon, on le porte en nous. On a déjà un tout petit peu purifié, mais pas dans une serre aussi chaude que le noviciat, où progressivement ça chauffe pour que on puisse arriver à séparer certaines mauvaises habitudes, certaines que croyons bonnes. C'est nous. Et c'est pas le Saint, c'est pas l'Esprit Saint. Donc, il faut partir de cette expérience. Qu'est-ce que c'est que la matière ? Ce qui est capable d'être transformé. Alors vous avez une matière très nette à l'égard de tous les arts. Et de tous les arts coadjuvants sanatoires, les arts qui aident la nature. C'est très intéressant, vous voyez, de regarder ça en premier lieu. Et la philosophie grecque, qui de fait a commencé par la réflexion sur l'art, des travaux de celui qui travaille la terre, celui qui est dépendant du soleil qui vient chauffer, de regarder tous les niveaux de la matière pour arriver à découvrir progressivement ce qu'est la matière. Le esti de la matière. Ce qu'est la matière. Il y a toute une expérience longue de la matière du forgeron, de la matière du champ. capacité à déterminer, ça implique une indétermination. C'est cette indétermination radicale qu'on dira la matière. Vous voyez que pour connaître la matière, il faut connaître la réalité quand elle a été transformée. La matière, par définition, est une chose qu'on ne connaît pas, puisqu'elle est source de toutes les indéterminations. Elle est quelque chose de radical. Il faut bien voir comment a commencé cette philosophie de la phusis de la nature. La nature, c'est tout ce que l'homme n'a pas fait. Que l'homme fait, c'est une œuvre artistique. C'est une œuvre fabriquée par l'homme. Vous voyez, il y a dans Valérie un petit des considérations très intéressantes là-dessus, Monsieur Test, où on voit au bord de la mer et qu'on voit des coquillages et des petites pierres. Labouré, très 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 amenuisé par la mer. Et c'est pas toujours commode de voir où il y a une action naturelle et où il y a une action artificielle. Dans le désert de Juda, où j'ai été plusieurs fois, il y a déjà longtemps, une fois j'ai découvert une pierre. Comme c'était d'une petite hachette, pierre, très très. Alors j'ai amené ça à un archéologue que je connaissais bien, qui était dominicain et qui habitait chez à Saint-Étienne, à Jérusalem. Et je lui ai dit, dites-moi, vous qui êtes un archéologue, est-ce une pierre naturelle ou est-ce une pierre travaillée ? Une petite vachette. Il l'a regardé avec beaucoup d'attention. Puis il m'a dit, je n'arrive pas à déterminer. Il y a certains points qui semblent vraiment être taillés, d'autres points qui ne semblent pas. Sans doute quelque chose qui a commencé d'être taillé, qui n'a pas été jusqu'au bout. Discerner, vous voyez, je prends ça parce que c'est là un point très important. Discerner ce qui a été travaillé par l'homme, qui n'est plus la nature, et ce qui est nature, non travaillé par l'homme. Vous voyez que ceci se fait à partir de l'œuvre artistique. La philosophie de la nature est née à partir du métier des artisans, à partir d'un souci philosophique de connaître ce qui est antérieur au travail de l'homme, ce qui est radical dans la réalité et qui offre à l'homme une matière. Il y a certaines choses que l'homme immédiatement considère comme n'étant pas travaillées par l'homme. Et quand vous regardez les sommets d'une montagne, les glaciers, quand vous regardez le bord de la mer, et même le bord de la mer, vous voyez tout de suite, il y a le discernement. Parce qu'il y a des choses apportées par l'alluvion. Sans être des cadavres, c'est quelquefois des ossements de vivants. Et les ossements de vivants, ce n'est plus au sens premier la nature. C'est une nature vivante. Alors vous voyez, deux discernements qui ont donné naissance à la philosophie de la nature. Premièrement, le discernement de l'œuvre fabriquée par l'homme. Deuxièmement, le discernement de la nature et de la nature vivante. Résiste au travail de l'homme, ce qui a en soi quelque chose de caractéristique, qui est radicalement une capacité à être transformé par l'homme, parce que toute la nature, tout le monde physique peut être transformé par l'homme. Même les sommets des montagnes, surtout actuellement, du temps d'Aristote, la nature avait une liberté bien plus grande qu'aujourd'hui, puisqu'on ne pouvait pas travailler les sommets des montagnes. Aujourd'hui, en hélicoptère, on peut y aller. Aujourd'hui, même dans la Lune, on peut emporter un petit bout de Lune. Mais c'est vrai, quand on est dans la Lune, on a touché quelque chose de naturel, non travaillé par l'homme. C'est impressionnant, le premier pas de l'homme sur la Lune. Et ça, c'est une expérience nouvelle, mais qui en même temps n'a rien de nouveau, qui est la même expérience que l'homme fait lorsqu'il essaie de saisir ce qui a échappé au travail de l'homme. Et plus on avance, plus ce sera difficile de trouver la nature. C'est un aspect de la philosophie. Je ne dis pas qu'il tend à disparaître. Ça existera toujours. Mais dont l'expérience humaine sera de plus en plus rare. Nietzsche a très bien saisi ça. Il a saisi ça, deux expériences. Quand je suis dans la ville, je dis, je suis en face d'un monde cultivé, et je pense à l'homme. Et tout est artificiel. Tout provient de l'homme. Et la ville me fait dire l'homme. Alors que quand je suis en face de l'océan, quand je suis en face d'un glacier, quand je suis, et pour Nietzsche, j'étais Sils Maria en Suisse, dans la Haute-Engadine. C'était le lieu que Nietzsche aimait particulièrement, la Haute-Engadine. J'ai fait un pèlerinage, pas à cause de Nietzsche, mais on m'avait dit que c'était ce qu'il y avait de plus beau en Suisse. J'avais demandé ça à un expert. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau en Suisse? Sils Maria, dans la Haute-Engadine. Et c'est vrai. Alors j'ai demandé à quel moment il valait mieux y aller. On m'a dit n'importe quel moment. C'est comme pour les grands crus. Toutes les années sont bonnes, mais on peut discuter. Et c'est vrai. C'est Nietzsche. C'est curieux. Nietzsche aimait la nature. Et la nature non touchée par l'homme. Il est même dit, quand on est en face de la nature, non touché par l'homme, on dit Dieu. Quand on est en ville, on dit l'homme. C'est intéressant, vous voyez. Troisième distinction, celle de Nietzsche. Je prends successivement toutes les distinctions. Première, l'œuvre d'art et la nature. Deuxième distinction, la nature et le vivant. Troisième distinction, ce qui n'est pas tout. Je crois que ce sont trois grandes expériences que nous devons, que nous pouvons faire, sur lesquelles nous devons réfléchir pour découvrir cette expérience spéciale de toucher ce qui échappe, ce qui a encore échappé à l'homme. Parce que quand vous voyez des petits cailloux cassés, ça n'a pas échappé à l'homme, c'est des petits cailloux cachés. Cassés, c'est plus la nature. Ça sert pour les routes. Il faut, de temps en temps, pouvoir se plonger dans la forêt vierge. Quand on est tout près de la forêt vierge, et c'est vrai, il y a une expérience de l'exubérance de la nature étonnante dans ces pays. C'est pas toujours très drôle, parce qu'on rencontre des tas d'animaux, mais c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. De pénétrer dans un lieu où l'homme n'a pas fait de chemin, et où la nature pousse comme elle veut. C'est quand même pas la même expérience que de circuler dans le parc de Versailles. Pas la même chose. C'est autre chose. D'un côté, la nature. C'est à partir de là que le grec, qui a un sens très étonnant de l'eau, la Grèce est un des pays où on a le sens de l'eau. Il y a la Grèce et les Pays-Bas, mais de façon totalement différente. Parce que dans les Pays-Bas, c'est la conquête de l'homme sur l'eau. Et de l'autre côté, c'est de regarder cette chose étonnante d'un rivage abîmé ou sculpté. Ça dépend comment vous le regardez. Sculpté par les vagues. Les Cyclades. Les Cyclades. C'est une chose très étonnante. À partir de là, le grec a voulu réfléchir, qu'est-ce que c'est que la nature? Qu'est-ce que c'est que la matière? Vous voyez que pour nous, la situation devient beaucoup plus difficile, parce qu'on est en face d'une science qui s'est développée, la physique, la chimie, qui s'est développée, et qui nous fait croire qu'elle remplace la philosophie de la nature. On verra ça la fois prochaine. Parce que c'est vrai. Il faut bien comprendre cela. Et c'est pour ça que la philosophie de la nature aujourd'hui, la philosophie de la matière, est quelque chose de difficile. Parce que nous avons tous fait un peu de physique moderne. Nous avons tous fait un peu de chimie moderne. Et la démarche de la philosophie de la matière, et la démarche